enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, sur la terre, il y a quand même beaucoup de désordre. Hein. Il y a beaucoup de désordre. Il y a du désordre partout. Hein. Partout. C'était hier à un carrefour, là. Il y avait un désordre au carrefour impensable. Des voitures dans tous les sens. Et voilà que je vois que le camion des pompiers passe au milieu, comme ça, de manière complètement hasardeuse. Alors j'interpelle ce sapeur. Je lui ai dit, mais dites donc, vous, pompiers, vous ne respectez pas les feux? Il m'a dit non. Nous, on grille les feux pour aller les éteindre. Alors, il y a du désordre partout. Hein. Il y avait un agent qui faisait la circulation de façon complètement bizarre. Mais je suis après, il fait de la politique, il donne toujours la priorité à gauche. Et comme ça, la voiture des pompes funèbres en a profité pour passer, il roulait à tombeau ouvert. Il y a du désordre partout. Partout sur la terre. Le désordre, j'ai entendu une info... C'est une histoire, juste un truc comme ça, c'est le désordre qui me fait penser comme ça. C'est l'histoire c'est un moine, et avant, il était accro du tiercé. Et alors il était énervé parce qu'il le touchait toujours dans le désordre. Alors, une fois il était sûr de son coup, il a dit là, dimanche prochain, si je le rentre pas dans l'ordre, je veux bien me faire curer. Alors il a tenu parole, il est rentré dans les ordres. Mais aujourd'hui, il est dans le dénuement le plus complet. Forcément, le moine ne fait pas l'habit. Alors, vous voyez, le désordre est partout. Et sur cette terre, vous ne trouverez rien qui marche réellement comme il faut. Heureusement, il y a un endroit où il n'y a pas de désordre. Il y a un endroit où il y a de la sécurité. Ce soir, j'aimerais vous parler du paradis. J'ai envie de vous parler du paradis. J'ai envie de nous parler du paradis. Un endroit où on n'a pas besoin de se méfier. Un endroit où il n'y a pas de code, où il n'y a pas de carte bancaire. Un endroit où il n'y a pas de système de sécurité, où il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de... Voilà, c'est le paradis. C'est un endroit extraordinaire. Ça siffle un peu, voilà. Un endroit absolument extraordinaire. On l'appelle le ciel. Des fois, souvent, on met un grand C majuscule, le ciel. On dit le paradis, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. En tout cas, c'est l'endroit où Dieu se tient. Et c'est l'endroit où les rachetés de Jésus-Christ sont conviés à passer du temps. Et du temps, et du temps. Mais l'éternité, quand on est bien placé, c'est pas long. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont qu'une idée très très vague de ce qu'est le paradis. Et quand j'étais gamin, l'idée que je m'étais fait du paradis, c'était une espèce d'image d'épinal. Je voyais comme une espèce de mer de nuages. Vous savez, comme quand, si vous prenez des fois l'avion, et des fois vous êtes au-dessus des nuages comme ça, et vous voyez une espèce de mer cotonneuse comme ça, à perte de vue comme ça. Alors le paradis, je me représentais un peu une espèce de paysage comme ça, de coton à perte de vue. Et alors tous les sauvés étaient là, bien alignés par rangées, par colonnes, tous bien alignés, les pieds dans le coton comme ça, avec une grande robe blanche, tout pareil, et tout le monde chantait Alléluia, Alléluia. Et j'avais pas du tout envie d'y aller. Pas du tout. Je me disais, mais Alléluia pendant l'éternité, comme ça, mais c'est grave. Et je voudrais vous rassurer, si vous avez regardé les mêmes images que moi, c'est une fausse image. Le ciel, c'est pas ça. Le paradis est un endroit merveilleux. C'est un endroit extraordinaire. C'est un endroit qui est tellement beau, qui est tellement sensationnel, tellement riche, tellement plaisant, tellement beau. Et c'est un monde, je voudrais vraiment vous persuader que c'est un monde réel, un monde concret, un monde riche. C'est pas seulement une espèce de d'état flou, plus ou moins, je sais pas moi, comme si on s'était fait un petit peu faire une anesthésie générale. Non, c'est quelque chose de vrai. Quelqu'un a écrit quelque chose qui correspond exactement à ma pensée. Il a dit dans un livre, c'est un monde très complexe, d'une richesse de vie et d'une variété infinie. Nous y trouverons une puissance de satisfaction inimaginable pour notre corps, notre âme, notre esprit, dans chacune de leurs parties. Ah ben oui, c'est moi qui ai écrit ça. Alors, donc, ça correspond exactement à ce que je voulais dire. C'est bien, oui. Alors, ça commence surtout, une chose qui est formidable, c'est que ça commence déjà par l'élimination de toute source d'insatisfaction, de toute source de pleurs. Hein. Par exemple, on lit dans, je ne cherchais pas forcément les versets, parce que je vais en lire beaucoup, alors je vous les lis au fur et à mesure, comme ça vous me faites confiance. Hein. Bon. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Vous imaginez un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de cause de larmes, plus de cris, plus de douleur. Ça veut dire plus de peur, plus d'angoisse, plus de crainte, plus d'anxiété, plus de coups au cœur en décachetant la lettre qui revient du laboratoire. Quel est le résultat? Et donc je continue. Ça me dit plus de femmes énervées, mais ça c'est sa version. Alors, mais ça en fait partie aussi. Et plus d'inquiétude, plus de causes de deuil, plus de maladies, plus de stress, plus d'échecs, plus de rejet, plus de sensation d'être incompris. Plus de dévalorisation, plus de souffrance, plus de chirurgie. C'est le paradis, quoi. Dans cet endroit, ce qui va prévaloir, c'est l'amour. Et ça, aujourd'hui, même les professionnels de l'anthropologie, de la sociologie, vous diront que de façon universelle sur la face de toute la terre, ce dont les hommes ont besoin le plus partout, c'est d'aimer et d'être aimé. Au-delà des conditions culturelles, au-delà du niveau de vie, au-delà du confort, au-delà de tout, les hommes de façon universelle ont besoin d'aimer et d'être aimés. Et quand ces conditions ne sont pas réussies, ils ne peuvent pas être heureux, c'est impossible, quelles que soient leurs conditions. Le paradis, c'est l'endroit où on sait qu'on est aimé. Le paradis, c'est l'endroit où on sait aimer. Combien de fois nous avons été aussi malheureux sur la terre de ne pas se savoir aimer comme on aurait voulu, mais aussi de ne pas savoir aimer comme on aurait dû. Mais dans le ciel, c'est la charité, l'amour, vous appelez ça comme vous voulez, parfait, la perfection des relations, la perfection dans la communication, plus de malentendus, plus de frustrations, plus de moqueries, plus de sentiment d'être mis à côté. La perfection de la charité. Le livre de l'Apocalypse parle d'une ville. Et ce livre parle de la Jérusalem céleste. Quand on parle d'une ville, ça veut dire, bien sûr, ça veut dire des maisons, mais une ville, ça veut dire aussi une organisation. Une ville, ça veut dire des avenues, des rues, des boulevards, des quartiers, des pôles d'activité, etc. Ça veut dire quelque chose où on agit. C'est un endroit, forcément, s'il y a des rues, c'est parce qu'on se déplace. C'est un endroit où il y a une vie réelle qui se fait. Vous voyez, le paradis, c'est pas un endroit où le niveau d'activité serait quasi nul. Beaucoup de gens ont cru que c'était ça. Le paradis, c'est tout, puis on est là, on est dans une espèce d'état vaporeux, éthéré, comme ça, on a de la fumée dans la tête, et puis, mais le paradis est un endroit où on va vivre, hein. et agir. Le niveau de complexité de notre monde n'est rien à côté de ce que nous allons vivre au ciel. Ici, c'est très sommaire. C'est même pas, c'est à peine un brouillon. C'est juste, on devine juste un petit peu comme ça des principes. Mais ça, c'est seulement ce qui est ici, sur la Terre, dans un monde où tout est fait avec des atomes, des machins, des molécules, de la matière, où tout est non parfait, où tout est fait pour disparaître un jour. Il n'y a rien de définitif ici. Mais au ciel, on va réellement... C'est une ville, la Jérusalem céleste. On va y habiter, on va se déplacer, on va faire des pôles de d'activité, on va se rencontrer, on va se retrouver, on va avoir des projets, on va faire des choses. Si ici on aime bien avoir une vie riche, une vie dans laquelle on peut entreprendre, une vie où on peut penser, prévoir, se projeter plus loin, pourquoi est-ce que le ciel serait moins bien que ça? Le ciel est mieux, bien mieux que ça. C'est un niveau de vie extraordinairement élevé, extraordinairement perfectionné. Moi, je crois qu'il y a des chrétiens, parce qu'ils ont eu une fausse image du paradis, je dis pas qu'ils n'ont pas envie d'y aller, mais ils aiment quand même ce qu'ils font ici. Alors, ils sont attachés à ce qu'ils réalisent, particulièrement les hommes, souvent. Parce que les hommes aiment se réaliser à travers des trucs qu'ils font. Alors, s'ils pensent qu'au ciel, on fait plus rien... Quelque part, ça leur fait un peu, ça leur met la trouille. Ils disent, mais après, on va s'ennuyer. Moi, j'aime ce que je fais. Mais là, c'est presque rien, ce que tu fais, c'est bidon. Mais quand au ciel, on va réellement servir Dieu, à travers des activités où on va faire des choses qui vont être d'une... Vous savez, quand on fait des projets communs, où il y a des tas de choses à définir les uns avec les autres, dans la complémentarité, en comptant les uns sur les autres. Mais c'est extraordinaire, c'est beau. Et puis au ciel, vous savez que votre projet, vous allez le mettre à exécution. Vous savez que vous allez le finir. Vous n'avez pas l'angoisse de dire, on ne va pas y arriver, et puis au dernier moment, ça va foirer, et puis quelque chose va se mettre en travers. Mais je vous assure, faut aller au ciel. Mais sans blague, faut aller au ciel. C'est fantastique. Le ciel est un endroit réel. Le ciel est un endroit réel. Moi, quelquefois, quand je vois des beaux paysages, rien que presque tous les matins en ce moment, quand il y a un moment quand le soleil se lève là. Depuis notre fenêtre, avec Brigitte, on regarde, il y a des couleurs magnifiques, c'est beau. Des fois, on aimerait, on voit des photos d'endroits dans le monde, mais on aimerait aller voir, moi je voudrais aller voir les chutes du Niagara, je voudrais aller voir des tas de trucs, des fois ça me fait envie. On voit des endroits merveilleux. Bon, puis, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas... Bon, après, je me dis, Jean-Marie, laisse tomber. Au ciel. C'est bien plus beau. Au ciel, c'est bien plus beau. Vous croyez que parce qu'il y a des belles choses ici sur la terre, vous croyez qu'au ciel, ça va être un espèce de fond commun, comme ça, avec une espèce de truc, je sais pas, pastel, et puis vous regardez ça l'éternité? Mais non. Le ciel, c'est beau. On va voir des paysages, mais on va être stupéfait de la beauté. Même ceux qui sur la terre ont vu les plus belles choses, il faut qu'ils soient stupéfaits aussi en arrivant là-bas. Il ne faut pas qu'ils arrivent et disent « Ouais, oh ben c'était comme à tel endroit ». Non, ils vont aussi être éblouis. Le ciel n'est pas un endroit sans vie. Même, par exemple, vous avez des versets intéressants. On dit par exemple « Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, des palmes dans leurs mains ». Apocalypse 7:9. S'il y a des palmes, c'est qu'il y a des palmiers. S'il y a des palmiers, c'est qu'il y a de la végétation. C'est que c'est un endroit où on voit réellement des montagnes, des prairies, des lacs. Mais dans une échelle, une dimension qu'on peut pas décrire maintenant. Là, ce qu'on utilise, c'est juste des mots, parce qu'il nous faut des mots. Mais on met juste des mots dans un domaine, dans notre petite sphère, qui nous permet juste de nous exprimer maintenant. Mais c'est très très rétréci. Mais au ciel, vous avez un arbre de vie. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Vous voyez, il y a un arbre. Il y a un arbre de vie. Alors en plus, il produit son fruit de façon mensuelle. Hein? Alors s'il y a parmi nous quelques agriculteurs, là, Joël, je ne sais pas où il est, eh bien, hein, ça vaut le coup, vous voyez. 12 récoltes par an, c'est sympa quand même. Hein? Il y a de la vigne, Jésus l'a dit. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a de la vigne. Donc on va aussi travailler, on va aussi faire des choses, mais pas avec cette notion fatigante qu'a le travail aujourd'hui. Le royaume de Dieu est un endroit d'une richesse minérale extraordinaire. Extraordinaire. Quelques-uns d'entre nous sont peut-être très fiers de posséder un truc, machin, où il y a 5 grammes d'or, ou je sais pas quoi. Mais c'est que dalle, ça. Dans le ciel, la richesse minérale du ciel est stupéfiante en pierres précieuses, en or. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville était ornée de pierres précieuses de toute espèce, de jaspe, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, de sardonyx, de sardoine, de chrysolite, de béryl, de topaz, de chrysoprase, d'hyacinthe, d'améthyste. On nous dit aussi qu'il y avait des perles. Les 12 portes de la ville étaient 12 perles. Et il y avait du cristal devant le trône, comme une mer de verre. Une mer de cristal. Vous imaginez? Mais même ceux qui ont vu les plus belles choses sur la terre, ils s'en souviendront même pas. Alors bien sûr, quelqu'un me dira peut-être, oui, les 12 portes étaient 12 perles, mais ça, mon ami, c'est une image. Je sais bien que c'est une image. Mais qu'est-ce qui est plus beau? L'image de quelque chose ou la réalité? Ça veut dire que si cette image est belle, ça veut dire que la réalité elle est plus que l'image qui nous est donnée. C'est pour ça que j'aime contempler cette image. Je sais bien que c'est une image. Je n'essaye pas de me représenter un tableau avec des portes en forme de perles. Mais je sais que si Dieu nous dit que ces 12 portes sont 12 perles, c'est parce qu'il veut nous parler de quelque chose. Et j'aime cette image. Parce qu'elle me parle d'une réalité qui sera plus belle encore que l'image qui nous est donnée. Dans le ciel du ciel se déroulent des phénomènes extraordinaires. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Ça vous donne pas envie? Alléluia. Ça, c'est la part des rachetés de l'Éternel. C'est la part de ceux à qui Dieu a donné l'entrée du ciel gratuitement. Par le sang de Jésus-Christ sur la croix. On m'a demandé plusieurs fois, est-ce que dans le ciel, il y aura des animaux? Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire, parce que la Bible n'en parle jamais. Quoique, il y a juste une chose qui est intéressante, où on nous parle des chevaux de feu. Pas des chevaux tout court, mais des chevaux de feu, hein, dans le deuxième livre des Rois. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux de son serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux de feu et de chars de feu autour d'Élisée. Et un peu plus loin aussi, on voit un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon emporté par des chevaux de feu. Alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres animaux de feu? Je ne sais pas. Mais quand même, ce sont des tout petites allusions qui nous permettent de pressentir, de lever comme un tout petit coin du voile, qui nous permettent de pressentir que le ciel est un endroit bien plus complexe que ce que nous avons pu quelquefois imaginer avec une imagination qui avait été bridée, rétrécie. Ce qui est intéressant, ça c'est seulement le côté description si vous voulez. Mais après, ce qui est intéressant, c'est ce qui nous concerne. Qu'est-ce que nous allons devenir au ciel? Et j'aime beaucoup une image que le Seigneur a donnée à Jean dans l'île de Patmos. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Quelqu'un pourrait dire recevoir en cadeau un caillou blanc. C'est moyen. un caillou blanc. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Un caillou blanc, un caillou, c'est quelque chose qui est indestructible. Ça sera inusable. Et le nom est gravé dedans. Il ne pourra pas être effacé. Il est blanc parce qu'il est définitivement pur. C'est un nom nouveau que chacun reçoit. C'est son nom. Notre nom, c'est notre identité. Si je vous avais demandé, est-ce que vous avez une carte d'identité? Vous avez une carte d'identité. Votre nom est gravé dessus. Mais c'est votre identité de maintenant. Mais au ciel, nous allons entrer, nous allons nous investir, nous allons appréhender notre vraie identité. Nous serons enfin parfaitement et définitivement ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous allons, vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent, et c'est vachement tendance, hein, il faut se réaliser. Il faut réaliser son identité. Mais tu n'y arriveras pas par toi-même. Notre identité totale, elle est en Jésus-Christ et elle est dans le ciel. Dieu va nous la dévoiler et Dieu va nous faire réaliser notre identité complète quand nous serons dans le ciel. C'est ce caillou blanc qui nous sera donné, qui nous sera révélé, chacun notre identité. Aujourd'hui, nous tendons vers la stature de Christ. Hein. Nous tendons, mais nous savons que la réalisation totale, c'est au ciel. Nous savons qu'aujourd'hui, toutes les techniques de réalisation sont condamnées à finir sur des voies de garage. Parce que c'est des techniques de quelque chose de fiable qui contribuent à quelque chose de fiable, de fragile, je veux dire. Mais là, nous allons entrer dans notre vrai moi. Qui suis-je, demandent certains. Mais la personne que tu es, et personne d'autre. Seulement maintenant, c'est seulement en devenir un. Mais notre vraie réalisation, elle est en Christ. Même si ces images peuvent sembler quelquefois à certains des images naïves. Mais c'est pas naïf. C'est quelque chose qui peut parler très profondément à nos cœurs. Hein. Nous ne serons pas au ciel chacun une espèce de, comme un grain anonyme dans un gros sac. Dieu a fait sa moisson, il regarde son sac. Non, nous serons chacun quelqu'un. Nous serons chacun une réalisation personnelle, une réalisation unique. Qui sera entièrement réalisée, finie, perfectionnée par Dieu. Elle sera arrivée à un accomplissement de perfection totale. Voilà pourquoi il nous faut aller au ciel, pour enfin devenir réellement nous-mêmes et ce que Dieu a voulu faire de nous. Au ciel, notre intelligence va être transformée. Déjà pour ici-bas, l'apôtre Paul disait, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est déjà pour ici une intelligence transformée par l'Esprit de Dieu. Mais malgré tout ça, Paul disait quand même, aujourd'hui nous connaissons seulement en partie. Mais alors, quand nous serons au ciel, alors nous le connaîtrons. La vraie connaissance, c'est la connaissance de Dieu. L'essence de la connaissance, c'est connaître Dieu. C'est pas des théories. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu est quelqu'un. Et quand nous serons au ciel, alors, Paul a dit, nous connaîtrons parfaitement. Nous connaîtrons entièrement. Je crois qu'au ciel, on va continuer d'apprendre à connaître Dieu pendant toute l'éternité. Parce que Dieu est infini. Et nous ne serons jamais au bout de notre apprentissage à connaître qui Dieu est, puisqu'il est infini. Sa connaissance sera infinie. Mais les études que nous ferons seront pas des études difficiles. Ça sera pas pénible. Hein. Samuel n'aura pas peur des études à ce moment-là. Il a souvent dit que les études l'avaient poursuivi. Mais là, on pourra apprendre, hein, avec joie. On pourra apprendre sans craindre l'heure de l'interro. Hein? Ça, c'est pour ceux de la formation, je dis ça, c'est pour les... Voilà. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Même le domaine... Vous voyez, tout à l'heure, on a loué comme ça, c'est tellement formidable, avec les chants, la louange, la musique, tout ça. Mais dans le ciel, l'art, la créativité, nous allons enfin découvrir ce qu'est vraiment l'art. Hein? Se crée la créativité. Vous voyez, dans le ciel, il est beaucoup question de chant, de musique, d'instruments, etc. Vous en avez beaucoup comme ça. Par exemple, il est question de harpins en Apocalypse 14, 2, des anges qui sonnent de la trompette dans Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Mais nous aussi, nous allons chanter. Nous aussi, nous allons jouer des instruments de musique. Il chante un cantique nouveau devant le trône. Si c'est un cantique nouveau, c'est pas parce que c'est le dernier qui vient de sortir, Matthieu. C'est un cantique nouveau. Ça veut dire que c'est un cantique, c'est pas les paroles qui sont nouvelles. C'est le contenu qui est nouveau. Ça veut dire qu'on sera tellement, comme on sera rentré dans la connaissance parfaite de Dieu, on pourra chanter parfaitement le Dieu parfait que nous connaîtrons parfaitement. Ça va être fantastique. Même ceux qui aujourd'hui sont pas doués pour la musique, vous allez voir, vous allez rattraper les autres. Vous allez apprendre. Les anges, on va arriver, je suis sûr que les anges vont nous apporter des instruments de musique, peut-être des choses qu'on n'a jamais vues, des trucs machin, on dira, mais ben, ça se prend par où? Mais ils vont nous expliquer. Et on va découvrir des tas de choses. On va jouer sur des harpes d'or. On va jouer avec des instruments, des trompettes d'or. On va faire une musique, des sons. Ceux qui sont quelquefois allés, qui ont eu l'occasion des fois de passer un tout petit moment au ciel comme ça. Quand ils reviennent, ils disent, j'ai entendu une musique. Certains ont dit, qui connaissaient le solfège, ils disent, j'aurais voulu écrire, mais c'est impossible. On peut pas écrire ici la musique qu'on entend là-bas. Elle est d'une autre sorte, d'une autre qualité. Elle est faite avec d'autres choses. C'est une autre échelle. Ici, on a regardez une portée de musique. Il y a 5 malheureuses lignes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et les notes, il y en a quoi? 7 ou 8. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on peut quand même les arranger un peu, hein. Mais au ciel, c'est tellement mieux. Cette musique divine implique une activité cérébrale. Une activité technique, elle requiert un développement de capacités artistiques, des nouvelles sensibilités de l'âme. Nous allons développer des sensibilités. C'est pas un truc où on arrive, tac, pou, ah, ça y est, hop, on est au paradis, c'est fini, ben maintenant tu, voilà, ben, assieds-toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout notre être, Dieu nous a pas créé un être complet pour que après il n'y ait plus rien qui serve. Dieu nous a créé avec des capacités dans notre tête, dans notre cœur, dans nos sentiments, dans notre des sensibilités artistiques, hein, une créativité, une façon de prévoir, de se prolonger, et d'œuvrer ensemble. Ça va être extraordinaire. Il y a des tas de domaines que je suis sûr que maintenant nous ne connaissons pas ou qu'on a à peine effleuré. Par exemple, un truc qui, moi, ici, me passionne pas, c'est le sens de tout ce qui est olfactif, les parfums. Mais au ciel, on parle beaucoup des parfums. Le sens, l'art des parfums. Souvenez-vous que dans le tabernacle de Moïse, il y avait un parfum, et c'était très important, c'était un parfum sacré, c'était même interdit d'essayer de reproduire ce parfum-là. C'est le parfum du lieu très saint. Même le Nouveau Testament dit qu'il parle de la bonne odeur de Christ. Au ciel, on va aussi apprendre ces choses-là. On va découvrir. On va être constamment, aller de découvertes sensationnelles, en éblouissement. Ça, c'est le paradis. C'est le paradis. On va pas s'ennuyer. Même notre corps va participer à la rédemption. C'est pas simplement un truc spiritualisé, vous voyez, comme ça, perdu dans le cosmos. Dieu ne renie pas son œuvre. Il nous a créé, quand il a créé Adam et Ève, il a dit que c'était très bon. D'accord, le péché, il l'a créé en image de Dieu, et le péché a défiguré, a gribouillé l'image, ok. Mais en Jésus-Christ, Dieu va nous ramener, non pas en arrière, pour retourner à cet état-là, mais bien plus loin, bien mieux. Notre corps va être changé, transformé, glorifié. Regardez, quand Jésus est revenu glorifié, Jésus, avec son corps, il n'est pas venu avec une apparence de corps, il est venu avec un corps. Quand les disciples, à un moment, ils étaient un peu, faut comprendre aussi, hein. Ils étaient un peu largués quand même. Et tout d'un coup, Jésus était devant eux. Alors ils ne savaient plus s'il était là comme un esprit ou s'il était vraiment en dur, quoi, hein. Alors Jésus a dit, mais est-ce que vous avez, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ah, ils ont trouvé dans le garde-manger, il y avait un morceau, il y avait un peu de, du poisson, du miel. Bon, ils ont dit, ben, on a que ça. Il a dit, c'est bon. Alors, Jésus a mangé devant eux. Et ils ont bien vu que le poisson rentrait par là, puis qu'après, il disparaissait, il était dedans. C'est un vrai corps. Jésus leur a montré ses mains, ils ont vu la marque des clous. C'était son corps, mais un corps glorifié. Un corps glorifié. Et Dieu va nous donner à chacun un corps glorifié comme ça. Un corps glorifié. Il y aura plus d'imperfections. On n'aura plus quelques-uns, je sais pas moi, des trucs. Parce que des fois, d'une façon générale, vous êtes tous bien. Hein, mais je veux dire, des fois... des fois, on a chacun... des fois, un truc qui est pas... qui est pas top, quoi. Un genou qui coupe le bois, l'autre qui empile les bûches. Bon, des fois... Alors... Mais au ciel, on va être tous rendus parfaits. Vous savez, on dit ça en rigolant, mais vous avez des gens qui ont des fois toute leur vie souffert simplement parce qu'ils avaient un truc qui correspondait pas au canon général du machin, en centimètres ou en je sais pas quoi, et toute leur vie ils ont souffert à cause de ça. Mais au ciel, ils vont être beaux. Ce soir, quand tu rentres chez toi, tu te regardes dans la glace. Tu regardes dans la glace, tu dis, bah, écoute, déjà comme ça, t'es pas mal. Mais c'est vrai. Mais au ciel, tu vas être top. Au ciel, tu vas être vraiment top. On va être extraordinairement beau. On va être très beau. Quand j'étais au Centrafrique, on chantait un chant comme ça, on disait, je suis béni. Alors, en Centrafrique, je leur faisais chanter, bien qu'épendéré, je suis très beau. Alors bon, j'étais un peu étonné, mais je dis si. Notre corps sera glorifié, un vrai corps. Nous allons manger, boire. Nous mangerons aussi de la manne cachée. Alors c'est toujours le même truc, les contradicteurs. Oui, de la manne cachée, c'est une image. Eh bien oui, c'est une image. Mais ce qui est derrière l'image me fait envie. Ce qu'il y a derrière l'image, ça me donne l'appétit du ciel. Nous allons boire de la source de la vie et nous boirons aussi du vin, j'allais dire. Alors un truc qui est marrant, c'est que Paul nous a expliqué que quand on arrive au ciel, il y a aussi l'heure des récompenses. Vous saviez ça? Il y a l'heure des récompenses. Hein, et il faut que je vous lise le texte, c'est mieux. Chacun recevra sa propre récompense, hein, selon son propre travail. Alors c'est bien écrit, selon son propre travail. Hein, si quelqu'un a fait un sale travail, évidemment, ce n'est pas son propre travail. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, à savoir Jésus-Christ, s'il bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, ou, hein, des pierres précieuses, ou, virgule, à la ligne, un tiret, du bois, du foin, du chaume, alors l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, ce jour-là, la fera connaître, discerner, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alors il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, alors il perdra sa récompense. Pour lui, bon, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Hein, 1 Corinthiens 3, 8, 15. Comme au travers du feu, c'est comme quelqu'un, imaginez, qui est dans une maison. Il roupille, tout d'un coup, il y a le feu, on l'avertit, il y a le feu, il n'a plus que le temps de se jeter dehors. Il sauve son calcif, c'est tout. Il est dehors, et la maison brûle, il a tout perdu. Pour lui, il est sauvé, comme au travers du feu. Mais derrière, tout est brûlé. Mais quand nous arriverons au ciel, tout ce que nous avons fait passe par un feu, comme ça. Alors évidemment, tous les matériaux qui sont inflammables, eh bien, ils disparaissent, il reste des cendres, c'est fini. Mais tout ce qui a été fait avec les matériaux nobles, les matériaux des talents que Dieu nous a donnés, des matériaux de charité, des matériaux de justice, des matériaux d'amour du prochain, des matériaux d'humilité, alors toutes ces choses-là, c'est les pierres précieuses, c'est de l'or, c'est des choses qui resteront. Alors ce qui est autour était peut-être un peu, des fois, un peu... mélangé, ça grille, ça disparaît, et comme ça, ça purifie, et il reste que tout ce qui est à la gloire de Dieu. Et chacun recevra sa récompense. Mais ce que je trouve encore plus miraculeux,
Parce que sinon, on pourrait avoir peur.
Et j'en ai vu déjà qui souriaient moins. Hein.
Parce que... Et oui, parce qu'il y en a quelques-uns qui disent « Moi, je suis arrivé à la 11e heure, j'ai pas eu le temps de travailler beaucoup, alors maintenant, moi, je vais me retrouver là-haut avec un petit pécule, quoi. Hein. »
Mais vous savez qu'au ciel, il n'y aura aucun regret. Ça, c'est miraculeux aussi. Aucune jalousie. Personne ne regardera la récompense de l'autre en disant « Dis donc, ça, j'aurais bien aimé avoir ça, hein. » Où personne ne se passera l'éternité à regretter si seulement je m'étais mis un peu plus tôt. Non, tout ça n'existera pas. Nous serons tous heureux, tous satisfaits, tous contents, tous réjouis, tous contents de ce qu'on a, contents de ce que les autres ont. Mais c'est des choses, c'est même pas explicable ici. On peut même pas concevoir aujourd'hui un système économique qui pourrait fonctionner avec des critères pareils. Parce que ce sont des critères divins. Nous ne savons pas aujourd'hui en quoi consistent ces récompenses. Elles sont quoi? Comment, de quoi, qu'est-ce que Dieu pourrait nous donner qui serait encore plus des récompenses puisque déjà, là-bas on aura tout? Je sais pas. Mais Dieu a de l'imagination. Dieu a de l'imagination pour aimer. Dieu a de l'imagination pour faire du bien. Dieu a de l'imagination pour nous surprendre, pour nous réjouir. Au ciel, on a souvent qu'on allait servir Dieu. Et je crois que là aussi, notre perception est souvent une perception limitée. Parce que on se représente, on se figure comme un petit peu, je disais tout à l'heure dans l'intro, c'est que on se représente souvent le service de Dieu au ciel juste sous l'angle du chant. Hein? Alors, pour beaucoup, c'est des chorales de Bach. Alors, c'est des chants à quatre voix, comme ça, harmonisés, top, comme ça. Mais c'est pas seulement ça. Et je voudrais vous montrer, faire une comparaison. Regardez comme, par exemple, dans la loi de Moïse. L'autre jour, je vous ai parlé du tabernacle. Et dans le tabernacle que Moïse avait construit dans le désert, tous ceux qui servaient à Dieu avaient des fonctions, et c'était des fonctions bien définies et qui se complétaient les unes les autres. Dans toute la tribu des Lévites, les familles avaient des fonctions différentes. Dans chaque famille, chacun avait une part, etc. Chacun s'occupait d'une chose particulière, avec le feu, avec le chandelier, avec la table des pains de proposition, avec les sacrifices, avec toutes ces choses-là. Et toutes ces choses sont là pour nous servir d'image, de modèle, parce que le vrai tabernacle, c'était pas celui de Moïse. Le vrai tabernacle, c'est celui qui est au ciel. L'Épître aux Hébreux nous dit que ça, hein, ça c'est juste la maquette. Mais le vrai tabernacle, c'est celui qui est au ciel, là où Dieu habite. C'est le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. C'est le tabernacle plus grand et plus parfait. Et donc nous allons servir Dieu dans ce tabernacle. Alors l'image des sacrificateurs qui servaient dans le tabernacle de Moïse doit nous servir à comprendre que nous allons avoir dans le tabernacle céleste des services aussi qui seront distribués, à chacun aura des formes de services. Nous allons apprendre comment ça... Honnêtement, tout ça aujourd'hui, moi ça me dépasse. Je ne pourrais pas dire exactement ce que ça veut dire, comment ça va se concrétiser. Mais c'est pas important. Je sais seulement que ça existe. Je sais qu'on va pas se trouver seulement dans une situation figée, hein, figés qui bougent plus, là, une espèce de gelée au fond d'un bol. Là. Non, on va servir dans des activités intelligentes où Dieu va utiliser tout ce qu'il a mis en nous, frères et sœurs. Frères et sœurs, pour moi, il est évident que le ciel est le lieu du bonheur suprême parce que nous goûterons à une totale communion avec Dieu. Le paradis, avant toute autre chose, et c'est seulement ça, après c'est seulement c'est ce qui en découle, mais l'essence du paradis, c'est la communion avec Dieu. Dieu, c'est quelqu'un. Dieu, c'est notre papa dans le ciel. Nous serons en communion totale avec lui, éternellement, avec lui et avec l'agneau de Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous. Aucun bonheur sur terre, aucune situation ne peut être comparée à une seule seconde de félicité céleste dans le paradis. Je ne sais pas si, par exemple, maintenant, les uns et les autres, vous pouvez vous souvenir du moment où, dans votre vie, vous avez été le plus heureux, le plus satisfait, le plus comblé, le plus ébloui. Et souvent, ça n'a pas duré longtemps. Et c'est très petit à côté de ce que nous allons vivre au ciel, définitivement. J'aimerais vraiment ce soir. Vous voyez, je ne vais pas dire le seul bémol, mais un petit peu la seule tristesse, la seule crainte que j'aurais ce soir, ça serait si j'étais pas persuadé que nous tous ici, nous devions tous y aller, quoi. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui me fait peur. Maintenant, c'est quand même possible. Parce que le chemin est facile. Le chemin est facile à trouver. Jésus nous a dit qu'il est le chemin. Jésus a dit, nul n'est monté au ciel en son temps. Nul n'est monté au ciel. Mais il nous a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui qui a frayé un chemin, une route vivante, une route nouvelle, plus parfaite. Il a payé de sa propre vie. Jésus a donné sa vie, il a donné son sang. Et je voudrais ce soir dire peut-être à quelques-uns des amis qui sont là ce soir et qui peut-être sont pas sûrs d'y aller, qui peut-être se sont même peut-être vraiment pas vraiment préoccupés de ça, parce que vous avez les yeux dans le guidon, parce que vous êtes tellement préoccupés de ce que vous faites ici que ça vous a rendu myope. Vous avez considéré vos activités et votre vie affective comme si elle était une fin en soi. Comme si ça allait durer tout le temps, toute la vie, oui, mais la vie d'ici. Et même si vous êtes assez malheureux pour vivre longtemps, ça va s'arrêter quand même. Qu'est-ce que vous ferez après? Où allez-vous? Le ciel est si beau et l'enfer est si sombre. La complexité de l'enfer est très grande aussi. C'est un endroit très riche en souffrance. C'est un endroit très riche en amertume, en regret éternel. C'est un endroit où on réalise plus rien. C'est seulement l'endroit où on comprend définitivement ses regrets. C'est un endroit de souffrance. C'est pas une invention. Jésus a parlé de cet homme qui se retrouvait dans ce lieu de tourment. Il a dit, la flamme brûle cruellement ma langue. Et il lui a été dit que personne n'en sort. Chers amis, ce soir, vous avez la possibilité de dire à Jésus de vous ouvrir la porte. C'est une petite porte qui donne sur un petit chemin. Ce n'est pas celle que tout le monde prend. Mais vous n'en aurez pas d'autre. Parce qu'il y a une porte, il y a un chemin. Elle est marquée des gouttes du sang de Jésus. J'aimerais qu'on prie une seconde. Seigneur notre Dieu, notre si grand Dieu, oh notre Dieu éternel, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, notre Dieu que quelques mots maladroits ne peuvent pas décrire. Notre Dieu, nous te bénissons de savoir que nous avons un chemin pour aller vers toi. Gloire à toi. Nous te rendons grâce pour le sang de Jésus. Et maintenant, je voudrais demander à quelques-uns qui ce soir savent, vous savez très bien, que la situation de votre cœur n'est pas en communion avec Jésus. Vous savez très bien que vous avez une décision à prendre et je voudrais vous inviter à la prendre maintenant. je voudrais vous inviter vraiment à dire, Seigneur Jésus, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je te remercie de ce cadeau que tu m'as donné et de tout ce que je n'avais même pas entrevu, qui font partie de l'héritage glorieux des enfants de Dieu. Maintenant, Seigneur Dieu, je me repens de mes péchés. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus être séduit par ces misères d'ici-bas, par le désordre ambiant. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, prends-la, sauve-moi, purifie-moi, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Alléluia. Merci Seigneur.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.